Père Étienne Véteux, vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, mais vous êtes aussi d'origine hongroise. Quel est le lien entre tout cela ?
S'il y a un lien, il vient de l'histoire. Mon père est donc hongrois, il a quitté la Hongrie en 1956, au moment où les Russes sont entrés. Donc comme réfugié politique, il est arrivé en France et pendant ses 3 ans en France, il a rencontré une charmante Française qui est devenue ma mère. Mais pour quelqu'un dans sa situation, donc sans patrie, c'était plus facile de trouver un travail et de s'installer aux États-Unis. Donc nous sommes restés une douzaine d'années aux États-Unis, je suis né là-bas. J'ai parlé anglais dès mon plus jeune âge, français avec mes parents. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, le côté des États-Unis, à la fois le contact avec la nature et puis une foi qui fait vraiment partie de la vie quotidienne. Un Américain n'a aucune hésitation à parler de sa foi, à dire de quelle religion il est, à la vivre tous les jours.
Et donc, en tant que Hongrois habitant aux États-Unis, pour vos parents, comment ça se passait ?
Venant d'un pays communiste, mon père a été très très bien accueilli. Mais c'est vrai que je me souviens que nous parlions français à la maison, avec mes parents, anglais avec mes frères et sœurs. À l'école, tout le monde parlait anglais et donc j'avais l'impression que chaque famille avait sa langue. La nôtre était une langue qu'on appelait nous le français. Ça m'a tout de suite ouvert au fait qu'il y avait énormément de cultures différentes. Notre petite école d'un petit presque village aux États-Unis, on était au moins une dizaine de nationalités. Et ça, c'était passionnant. Une sorte de melting pot au sens vrai du terme.
Comment se vit le melting pot au niveau de la foi ?
Je pense que les deux points que je retiens là, c'est premièrement le fait de me rendre compte que la foi est quelque chose qui nous unit. C'était un lieu ou une possibilité de communication avec des gens qui, par ailleurs, était très très différent. L'autre chose, c'est je le vois quand je vais de pays en pays, c'est que chaque pays est pris dans tel ou tel problème. Une problématique très déterminée, par exemple la place des femmes ou la question de la justice sociale, ou bien un clivage droite-gauche qui est reporté dans l'église. Et ça, le fait d'avoir vécu dans un milieu très très différencié m'a permis de me rendre compte que ce sont des questions qui nous enferment et ce ne sont pas des questions qui viennent de la foi. Et la foi dépasse ce genre de clivage.
Est-ce qu'on peut dire que la foi, finalement, c'est ce lieu qui vous a permis de rester unifié ?
Probablement le point de stabilité, puisque après les États-Unis, nous avons vécu en Côte d'Ivoire, puis nous sommes arrivés en France quand j'avais 14 ans. Moi-même, j'ai vécu en Angleterre, en Allemagne, au Congo, plus de 6 ans en Italie. Et maintenant, je suis de nouveau en France. Peut-être qu'un des points de stabilité les plus importants, c'était la foi et l'appartenance à l'Église.
Vous êtes aussi professeur de philo et vous avez fait un doctorat en théologie avec un thème tout à fait particulier.
J'ai fait un doctorat de théologie sur la Trinité. Le point de départ pour moi était de me rendre compte que Dieu était amour. Et quand on dit Dieu est amour, ça veut dire qu'il y a tout de suite une relation en lui. Et pas simplement de lui à nous, mais aussi en lui.
Qu'est-ce que ça veut dire une relation en lui ?
En fait, quand on regarde la figure de Jésus et qu'on voit peu à peu, qu'on comprend peu à peu ce qui a été mon cas en tant qu'enfant, qu'on comprend qu'il est Dieu, et puis, mais que le Père est Dieu, que Dieu est Père et Fils, on se pose la question, mais comment c'est possible ? Ça a été mon entrée dans la Trinité, de me dire, je regarde Jésus. Quand j'étais adolescent, mon premier argent de poche a servi à acheter un petit évangile en anglais. Et tous les soirs, je lisais ça en cachette. Et donc, je regardais cette figure de Jésus. Et la grande différence par rapport aux autres livres que je lisais, à l'époque, je lisais énormément, mais c'est que quand je lisais les histoires de Gandhi, quand je lisais les histoires de tel chevalier ou de tel autre personnage, je déposais le livre et puis j'y pensais plus. Alors que quand je lisais les évangiles, quand je déposais le livre après, j'avais l'impression que cette personne était là, avec moi, complètement différemment des autres. Là, je me suis dit, Jésus, c'est quelqu'un d'unique. Jésus, c'est Dieu. On m'avait aidé à comprendre ça. Et du coup, si Jésus est Dieu et que Dieu est Dieu, eh bien, Dieu est Père, Fils. Après, il y a eu la découverte de la personne du Saint-Esprit. La découverte que dans telle ou telle situation, quand j'appelais au secours, je recevais vraiment une force. Ou quand je me posais la question de savoir ce que je devais faire dans ma vie, alors c'était pas magique, mais de temps en temps, j'avais l'impression de vraiment recevoir une lumière. Après coup, surtout, en repensant à l'événement, je me disais, là, mon intelligence avait été aidée. Et ça m'a permis de découvrir cette troisième personne qui est l'Esprit-Saint. Voilà comment je vois ces relations en Dieu, ou en tout cas comment je les ai vécues.
Comment est-ce que les relations humaines vous ont aidé à percevoir ces relations en Dieu ?
La force de noyau familial que nous avions, qui faisait partie de cette stabilité à travers tous les déplacements, ça m'a donné une conviction que la stabilité première, ou la chose la plus importante, c'était l'amour. Je me rends compte que depuis mon plus jeune âge, j'ai eu des amitiés très très fortes. Je me rappelle encore très bien un ami que j'ai rencontré à l'âge de 2 ans, qui s'appelle Bradford, qui n'écoute certainement pas cette émission, ben j'aimerais bien, mais il n'est pas croyant. Et j'ai encore des relations avec lui, donc au bout de plus de 40 ans. Et puis comme ça, après, je peux nommer 4 ou 5 personnes avec qui j'ai eu des relations très très profondes. Ma vie, en fait, c'est eux aussi.
Votre vie ne serait pas ce qu'elle est s'ils n'avaient pas été là.
C'est clair.
Et vous pourriez nommer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ces amitiés? Quels sont les mots qui, justement, peuvent être mis en relation humaine et relation avec la Trinité?
La confiance, peut-être. C'est-à-dire de savoir qu'il y a quelqu'un en qui on peut vraiment complètement faire confiance, et à qui on peut dire ce que l'on veut sans être jugé, rejeté, devant qui on n'a pas besoin de porter de masque. Peut-être que ça m'a aidé dans ma relation à Dieu, et inversement, la relation à Dieu m'a aidé aussi à vivre ça. Un autre point, c'est que, bon, c'est souvent le cas quand on a des personnes qu'on aime, c'est quand on vit une expérience importante, on a envie de lui partager tout de suite. Vous savez, un beau paysage, un très bon repas, je suis très gourmand. On a tout de suite envie d'en parler avec ces personnes-là. Et je crois que ça m'a ouvert à la prière, parce que finalement, quand je repense à la manière dont j'ai commencé à prier, ça a été seul dans ma chambre. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La prière a commencé en famille. Tous les soirs, nous nous retrouvions et les enfants, nous devions exprimer à Dieu nos joies, nos peines, nos demandes de pardon. Et puis après, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai dit à mes parents que j'étais trop grand. Et en fait, pendant que eux priaient avec mes frères et sœurs plus jeunes que moi dans les chambres à côté, dans ma chambre, je priais. Je priais seul. Ma première prière a été de remercier Dieu pour tout. En fait, c'était de lui partager, comme j'aurais partagé avec un ami une belle expérience, de lui partager mes belles expériences de la journée. Après, peut-être qu'un ami que j'ai eu un peu plus tard, quand j'étais à l'université, est passé par des moments très très difficiles. Je pense que ça m'a ouvert à un autre aspect d'amitié qui est de durer, de s'engager. Et je pense que ça a aussi joué dans ma vocation sacerdotale. La confiance, l'action de grâce, évidemment, mais après aussi la prise de conscience de la souffrance et du fait de vouloir tout bêtement faire quelque chose. Quand j'avais 16-17 ans, vu que j'avais beaucoup voyagé et j'étais assez intéressé par les questions politiques, je m'étais dit que je serais diplomate. Naïvement, je voulais apporter la paix dans le monde. Et puis, après, en voyant que la souffrance la plus proche de moi n'était pas d'abord une souffrance sociale ou politique, mais était la souffrance très, très personnelle, privée d'un individu, je me suis rendu compte que je pouvais aussi apporter quelque chose là, par l'écoute, et puis en aidant des personnes à se construire et à rencontrer Dieu.
Qu'est-ce qui a déclenché l'appel? Qu'est-ce qui a déclenché l'engagement pour entrer dans cette communauté du Chemin Neuf? Et vous êtes maintenant, je crois, prêtre.
Il y a plusieurs fils de réponse. Je me souviens avoir fait quelques jours de retraite dans un monastère où il y avait des personnes mariées qui faisaient une expérience de vie commune. Et je suis sorti de là me disant, une fois que je serai marié et que mes enfants seront grands, j'aimerais vivre cela. Et puis c'est resté comme ça. À l'âge de 19 ans, pour mes études, j'ai dû aller à Paris. Et je cherchais un lieu de logement. Et je suis tombé, par hasard, sur un foyer d'étudiants tenu par la communauté du Chemin Neuf que je ne connaissais pas. Et je me souviendrai toujours du premier jour dans le foyer. Parce que j'ai vu des hommes et des femmes mariés, rayonnant de joie. Et je me souviens très très bien, je me suis dit, j'aimerais être heureux comme eux. À l'époque, je me posais la question du sacerdoce. On avait fait une semaine avec Thésée. Jusqu'à ce moment-là, je me posais la question de ce que je pourrais faire dans ma vie pour Dieu, mais jamais je lui avais demandé directement. Les organisateurs de ce moment-là nous ont envoyé prier. Et pour la première fois de ma vie, je me suis adressé à lui pour lui poser la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est venu immédiatement dans la prière, comme si le mot était en moi, mais attendait que je le regarde. « Prêtre !» J'ai immédiatement arrêté de prier en me disant « Non, pas ça !» Mais je savais très bien en sortant de la chapelle que quelque chose était fait et que j'aurais à répondre à cette question. Les deux sont allés en parallèle, c'est-à-dire il y avait la question de la prêtrise et puis cette découverte d'une communauté de personnes rayonnantes de joie. Et je pense que les trois choses qui m'ont fait basculer, si on veut, du côté du Chemin Neuf, c'est la réalisation de la richesse de vivre hommes et femmes ensemble et couple et célibataire. Je ne regrette pas, mais pas une seule journée, la richesse de cette vie. Le célibataire consacré n'a pas beaucoup l'occasion de découvrir la partie tendresse de sa vie relationnelle, alors qu'elle existe. Je ne parle pas de la sexualité, je parle vraiment de la tendresse. Mais on peut avoir peur de cette dimension-là, parce qu'elle est à la limite entre les deux. Et là, je pense que le fait de voir des couples, de voir les difficultés et les joies, de voir comment dans une vie de couple sur 20, 30, 40 ans, on apprend à s'ajuster avec des craintes qui sont parfois les mêmes que ceux des célibataires. Je crois que ça m'aide à découvrir aussi cette dimension-là de la vie relationnelle.
Comment aujourd'hui pouvoir témoigner de cette tendresse de la Trinité qui nous habite et comment l'exprimer, comment la manifester, comment la rendre visible et aussi comment est-ce que vous l'expérimentez, Père Étienne Véteux.
Ce qui me frappe dans l'amour des personnes de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, c'est que le Père se donne complètement. Moi, ça m'enseigne que le premier pas de l'amour, c'est de se donner et de se donner le premier, de faire le premier pas. Je fais le premier pas dans l'amour. Et je ne sais pas ce qui va se passer après. Il y a aussi le Fils qui se reçoit, qui reçoit tout. Et apprendre à recevoir, c'est parfois plus difficile qu'à donner. Quand on aime, on devient fragile, on devient vulnérable, on devient jaloux, on devient susceptible. Apprendre à être très profondément dépendant et de se recevoir et de recevoir, je crois que ça c'est le deuxième aspect de l'amour de la Trinité. Et puis l'Esprit-Saint, c'est qu'il fait le lien entre le Père et le Fils, il fait l'unité en gardant la différence. Et ça aussi, dans une vie communautaire par exemple, mais aussi dans une vie professionnelle, quelque chose qui fait un lien sans gommer les différences, c'est vraiment capital.